L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière. Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
T'es parti pourquoi ? Elle lui dit, j'avais besoin de sortir, une envie comme ça. Il lui demande, tu n'es pas bien ici ? Elle lui dit, si, bien sûr, tu ne m'aimes pas. Il a l'air si triste et penaud qu'elle s'assoit à ses côtés. Bien sûr que si. Il lui dit, alors pourquoi partir comme ça ? Parce que j'avais besoin de liberté, j'ai marché, et c'est tout. Il lui dit, et c'est en marchant que tu t'es mis dans cet état ? Elle lui demande, quoi ? Quel état ? Regarde-toi dans la glace. Et se lève, va devant la glace de la porte de son armoire. Et là, elle voit, surprise, ses vêtements tachés, noirs, le visage et les mains sales. Il lui dit, t'es là d'une romanichelle. On dirait que tu es traîné dans une corve. Il lui dit, je sais pas, je sais plus. J'étais dehors, dans la rue. Tu veux vraiment rien me dire ? Je n'en sais rien, j'ai rien à dire, je ne sais pas. Il lui dit, va dans la salle de bain. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Elle ne comprend rien. Absolument rien. Cet après-midi à Paris a été comme un cauchemar. Elle se déshabille pour prendre sa douche, essaie de se souvenir de quelque chose. Et là, elle se souvient de cette allée où elle est entrée. Pourquoi est-elle entrée dans cette allée ? Et ses yeux, cette ombre. Elle se dit qu'elle est partie de là, qu'à partir de là, où elle est entrée dans cette allée, elle a dû perdre connaissance. Ça lui fait peur. Elle se demande si elle n'est pas folle. Ressort de la salle de bain. Elle est en peignoir. Edmond est toujours là et lui dit, je suis navré, je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait une crise. J'ai dû avoir perdu la mémoire. Il lui dit, c'est un drôle de couple, toi et moi. La mémoire et moi, il allait dire perdre la vie. Mais il s'est arrêté à temps. Elle lui donne un baiser sur la joue. C'est elle qui le réconforte, alors que c'est elle qui a eu des ennuis. Mais il a l'air si fragile, si démuni. Elle trouve qu'il a encore maigri. Il lui demande, tu veux rien me dire ? Elle lui dit, je n'ai rien à dire. On va me harceler de questions, il lui dit. C'est pas normal. Ils se font du souci. C'est un peu normal, non ? Elle lui dit. J'aurais besoin d'être seule, lui dit. Mais tu es toute la journée seule, il lui dit. Non, je suis ici, la maison. Ne me laisse jamais seul. et puis j'ai perdu la mémoire et je cherche à savoir qui je suis. » Il lui dit, « Tu es ma femme, ça ne te suffit pas ?» Elle lui dit, « J'aimerais bien, mais mon esprit me dit que je dois chercher, que je dois remplacer ce vide qui est devenu ma mémoire. » Et soupir, il dit, « Je vais m'habiller, laisse-moi. » Il la laisse. Et retourne au salon. Félicie demande, alors ? Elle se souvient de rien. Elle hausse les épaules, lui dit, elle est folle, complètement folle. Lui dit, faudrait éviter de lui poser des questions. De toute façon, elle n'a rien à dire. Elle lui dit, c'est ça. Il ne faut rien lui demander. Il lui dit, oui. Oui. Elle va les retrouver au salon. Félicie lui dit, « Te voilà enfin présentable. Nous sommes déjà en retard. Allons vite dîner. Si je dîne trop tard, je vais mal digérer. Et durant toute la nuit, je serai mal. Allons, vite !» Durant le repas, Armand demande à Florence, vous avez vu des choses intéressantes à Paris ? Elle lui dit, oui, je crois. Félicie demande, qu'avez-vous fait ? J'ai marché dans les rues, comme ça, et puis je suis allé à un café, prendre un Vichy-fraise. Tu as fait tout ce trajet pour faire ça ? Durant toute la nuit, Florence se demande ce qui lui est arrivé à Paris. Mais elle a beau faire, elle ne se souvient pas. Cela l'agace et elle a envie, c'est de retourner à Paris pour se souvenir de ce qu'elle a ressenti, voir de ce qui lui est arrivé. Lorsqu'elle retrouve la famille pour le petit déjeuner, on ne lui parle plus de son escapade. Durant la journée, elle reste au salon, bien sagement, à lire un roman de Mauriac. Elle ne lit pas vraiment, mais se donne une contenance. C'est la pharisienne de Mauriac. On a frappé à la porte et se dit que c'est pas la vieille parce qu'elle ne frappe jamais. Elle entre comme ça. Comme elle dit, elle est chez elle et les autres sont chez elle. Elle dit, entrez. Entre la bonne. Madame, il y a le docteur Morel qui désire vous voir. Soupire et se dit qu'ils l'ont appelé. Bien, faites-le venir ici. Elle se retire. Florence est furieuse. Le médecin va la croire folle et la droguer à fond. Frappe à la porte. Entrez ! Et apparaît le bon docteur Morel. Il est tout sourire et dit, je viens voir ma petite madame. Il paraît qu'elle n'est pas bien ma petite fille. Il s'approche d'elle et lui dit en se levant, mais je vais très bien, docteur. Il lui dit, c'est moi qui décide. si vous êtes bien. » Elle lui dit, « Je suis très bien. » « Ah, pourquoi fuguer ? Si l'on fugue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La fugue est un symptôme très important, dangereux. C'est une fuite en avant, un suicide en quelque sorte. » Elle lui dit, « Vous n'avez rien à craindre. Je n'ai jamais eu envie de me suicider. » Il lui dit, « C'est vous qui le dites. Mais c'est peut-être... inconscient. » Et soupire, il dit, je n'ai rien du tout. Allons, ne soyez pas si nerveuse, mon enfant. Vous allez bien aller. Allez. Qu'avez-vous fait durant votre escapade? Il lui dit, c'est justement ce qui me fait peur. Je n'ai rien fait. Et puis, il dit, je vais vous ausculter. Nous allons voir ce que vous avez. Vous n'avez peut-être rien. Le médecin, elle lui dit, c'est pourtant ce qui me fait peur. Les médecins trouvent toujours quelque chose. Pas moi. Allons, allons, dans votre chambre.
De Gerlas, elle obéit.
Il lui dit, « Vous avez une famille admirable, mon enfant. » Admirable.
Une fois dans la chambre, il lui dit, « Déshabillez-vous. » Elle s'exécute. Il lui prend le pouls, le corps, regarde les yeux, les oreilles, les réflexes. Il demande.
Vous vous sentez bien?
Oui.
Dormez bien?
Oui.
Aussi. Il lui demande. Et vous êtes parti comme ça?
Parce que j'avais envie de liberté.
J'étouffe ici. C'est pas gentil de dire ça.
Mais c'est la vérité.
Vous, une fille si jolie, polie, soignée. Et voilà, vous fuguez comme ça.
Ça ne vous va pas?
Elle lui dit.
Moi aussi, je me le dis. Et je crois que je suis en manque. Je ne sais pas. Je me dis que ce que l'on me dit qui je suis, ça ne va pas avec moi.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Elle lui dit, je me sens mal à l'aise de ce que je suis. J'ai besoin d'autre chose, de vivre autrement. Et puis, je vis dans un... comme dans un rêve. Une vieille amie de mon père est venue me voir. M'a dit ne pas me reconnaître et m'a montré des photographies de moi plus jeune. Mais moi non plus, je ne suis pas reconnue.
Je lui dis, c'est normal, on change, mon petit.
Non, je sais que je suis une autre.
Et c'est cet autre qui vous fait faire des fugues.
Elle lui dit,
oui, si vous voulez.
Il lui dit, je vois. Dédoublement de la personnalité. Vous êtes devenu deux personnes, si l'on veut. C'est grave, ça, et dangereux.
va falloir vous soigner. C'est très grave. »
Elle lui dit furieuse, en se relevant. « Vous n'y êtes pas du tout. »
« J'ai lu Freud, et je sais. Il y a des gens, comme vous, qui sont devenus des tueurs en série. Vous savez. Je peux vous faire enfermer. » Mais, par égard à votre famille, je vous soignerai ici. »
Elle dit furieuse. Je ne peux rien vous dire. Sans que ça devienne quelque chose de catastrophique.
Ce n'est pas moi qui suis malade, mais vous, ma Mimi. Pas. Bon. Pour commencer, je vais augmenter votre traitement. Après, nous verrons.
Elle lui dit furieuse. Non. J'en ai assez. Je ne veux plus de ces drogues.
Eh bien, ce sera l'enfermement.
Docteur, il faut me comprendre. J'ai besoin de toute ma lucidité pour retrouver ma mémoire.
Votre mémoire. Votre mémoire. Pour avoir une double personnalité. Mais qui sera vous? Une double personnalité qui est en vous? Qui est une autre vous-même?
Elle lui dit. Je ne sais, moi. Vous avez raison. Mais je ne sais pas. Il faut qu'il y ait quelque chose à faire. Moi, je n'y arrive pas. Mais je ne veux pas être drogué. Non, je ne veux pas. Elle voit qu'il n'y a rien à faire. Il est têtu.
Et il sort de la chambre pour aller au salon.
Il y a Félicie, le docteur lui dit. Je vais lui donner des médicaments et qu'elle se repose. Félicie dit.
Elle ne fait que ça, il lui dit.
Et que voulez-vous qu'elle fasse d'autre?
Elle lui dit. Rien.
Le médecin se met à table et écrit son ordonnance. L'attend à la vieille. Il lui dit.
Qu'elle prenne bien tout ça. Je viendrai 2 fois par semaine, la vieille lui dit.
« Bien, monsieur !»
Et le médecin se retire. Désormais, Florence prend ses médicaments devant Félicie, qui la surveille. Florence, faisant souvent sommeil, ne peut penser. Mais la nuit, elle se venge en rêve. On la surveille comme le lait sur le feu. Les jours passent. De temps en temps, Armand lui fait signer des papiers, des chèques. Elle signe sans demander ce que c'est. Elle dort beaucoup. Puis au bout d'un moment, les médicaments font moins effet. Elle reste debout plus longtemps et même marche dans le parc. Une nuit, elle est réveillée d'un coup au salon. Ils sont autour d'elle, en robe de chambre. Elle demande « Que se passe-t-il ?» Ils m'ont lui dit.
T'as fait une crise de somnambulisme en sortant de ta chambre. T'as tourné dans toute la maison, en ouvrant toutes les portes. » Il lui dit, « Je m'en souviens plus. »
Puis il s'est dit,
« Tu ne te souviens de rien, de toute façon. Allons nous coucher. »
Désormais, chaque fois qu'elle se couche, qu'elle s'endort, elle a peur. Un jour, Armand lui demande de signer des chèques.
Et il demande, « Mais c'est pourquoi ?»«
Et pour éviter de te fatiguer, ma petite. C'est pour tes besoins. »
Alors elle signe.
Félicie l'emmène tous les dimanches à la messe, elle dit. « Ça lui fera du bien de sortir. »
Et dit à son mari, « Je vais en faire une fille pieuse. » Alors, elle y va.
Des fois, il lui vient en flèche des souvenirs, de visages, de lieux. Elle est sûre que c'est à Paris. Elle aimerait y retourner pour retrouver ses lieux, mais elle ne peut sortir.
Elle fait toujours ses rêves. Horrible, plein de cris et de sang.
Les jours passent. Malgré tout, elle se sent de mieux en mieux. Reste couchée moins souvent et plus longtemps lucide. Les jours passent.
Un soir, le père dit, « Nous allons être obligés, c'est d'organiser une soirée pour mes clients et amis. »
Félicie dit,
« Moi, ça ne me dit rien du tout. Je n'aime pas ça.
Je n'aime pas du tout ça. »
Il lui dit, « On est obligés, vu le poste que j'ai dans la société. Nous ferons venir un organisateur, tu n'auras rien à faire. »
« Je suis bien capable de le faire. »
« Tu vas me dire que ça te disait rien. »
« Oui, mais puisqu'il le faut. »
Il lui dit, « Et puis, les soirées ne sont plus comme de ton temps. »
Elle lui dit vexée, « Je ne suis pas si vieille que ça. J'ai pas commencé les fêtes. » À Versailles.
Je le sais, bien mère, mais le temps a changé et on ne danse plus, on gigote. L'on ne joue plus de la musique. On sent savoir le. On fait jouer de la musique sans savoir le solfège. Et. On chante, pas on hurle.
Elle lui dit, « C'est une soirée africaine. »«
Quelque chose près, oui. Avec même du tam-tam et du rap. Mais là, c'est beaucoup. »
Elle lui fait, « Eh bien !» Il lui dit, pour les cocktails. Ça a changé aussi. On ne mange surtout pas en français.
Je croyais que la cuisine française était la meilleure du monde.
Plus maintenant, elle est démodée. On veut des pizzas, du kebab. Moi, je n'aime pas ça. J'en ai jusque-là.
Elle lui dit, je vois. Je te laisse faire cette chose pour les sauvages.
Moi aussi, je n'aime pas ça. Mais je suis bien obligé d'y être.
Félicie lui dit, ça te permettra de trouver du travail.
Elle dit ça à Edmond.
Comme serveur, il lui dit.
Elle lui fait, pourquoi pas?
Maman dit encore, Florence doit y être aussi. Elle doit recevoir les invités.
La grand-mère dit, mais je suis là, moi.
Tu n'es pas la femme de mon fils, ni ma femme, mais l'aïeule.
Quoi? La potiche que l'on met dans un coin?
Non, mais tu dois rester discrète.
Florence dit, je ne suis pas sûre que je pourrais.
Tu n'auras rien à faire. C'est juste dire bonsoir et bonjour, c'est tout.
Et l'on prépare cette soirée. La grand-mère boude. Edmond commande. Pour les traiteurs. Et emmène sa femme chez les couturiers pour sa robe du soir et les accessoires, etc. Cela la change et est heureuse de pouvoir sortir un peu. L'organisateur est arrivé. Il est arrivé avec toute son équipe. C'est Chouchou. Chouchou, le roi de Paris, qui s'occupe de tout ça. Il est venu en costume roi et chemise verte. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.